Et voici donc l'accent des autres, comme chaque semaine, c'est avec les médias francophones publics. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec RFI, la radio-télévision suisse, Radio-Canada, France Inter et la RTBF. Et tout d'abord, le débat sur les armes, une nouvelle fois relancé aux États-Unis après la récente fusillade dans une école du Texas. C'est une tuerie, Benoît Audet, qui a notamment eu des échos au Canada.
Oui, comme à chaque fois qu'une tragédie semblable ébranle les États-Unis, les politiciens canadiens sont interpellés sur la question.
Elle tue aussi trop souvent la route, la vitesse surtout. Et pourtant, en France, à 2 semaines du premier tour des législatives, le nouveau gouvernement réfléchit à réduire les sanctions pour les très petits excès de vitesse, Karine Bécard.
Oui, vous savez, ces excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, ils sont aujourd'hui punis d'une amende et d'un point sur le permis en moins. Eh bien, le ministère de l'Intérieur pourrait bientôt décider de ne plus retirer le point sur le permis.
Ils étaient portés disparus depuis 39 jours. 4 creuseurs pris au piège par une inondation dans une mine du Burkina Faso sont décédés. Leurs corps ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi, Nicolas Sûr.
4 autres manquent toujours à l'appel. L'espoir qu'ils soient encore vivants est désormais quasiment nul.
La Suisse ne suivra pas la Finlande et la Suède. Pierre Anchoffa, elle ne demandera pas son adhésion à l'OTAN.
En revanche, elle souhaite renforcer sa collaboration avec cette alliance militaire, par exemple en participant à des exercices conjoints, un rapprochement discuté au Forum économique mondial de Davos avec le secrétaire général de l'OTAN.
Enfin, la loi qui dépénalise l'euthanasie en Belgique a 20 ans aujourd'hui. En 2002, la Belgique était le 2e pays, après les Pays-Bas, à autoriser de mettre fin aux souffrances des patients atteints de maladies incurables. Sarah Hendricks.
Une question de dignité humaine. En 20 ans, 27 000 personnes ont eu recours à l'euthanasie en Belgique. La loi de 2002 a été étendue aux mineurs en 2014 et des associations souhaitent qu'elle évolue encore.
Et voilà pour le sommaire de cette fin de semaine. La mort de 19 écoliers et 2 enseignants aussi sous les balles d'un tireur dans l'État du Texas a créé une véritable onde de choc un peu partout à travers le monde. Et c'est le cas donc notamment au Canada, le Canada qui partage une longue frontière avec les États-Unis. Benoît, même si on ne peut pas comparer le débat au sujet du contrôle des armes entre le Canada et les États-Unis, les fusillades de l'autre côté de la frontière sont largement couverte chez vous.
Oui, c'est vrai qu'on ne peut absolument pas comparer le Canada et les États-Unis en matière de violence liée aux armes à feu. Le taux d'homicide par arme à feu est 6 fois plus élevé aux États-Unis par rapport au Canada. Mais quand même, le Canada a déjà été le théâtre de drames semblables. Le dernier en date, c'était il y a 2 ans. Un tireur avait fait une cavale meurtrière dans la province de la Nouvelle-Écosse. 22 victimes étaient tombées sous les balles.
Oui, et encore une fois, les politiciens ont été appelés à réagir.
Oui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit qu'il avait la responsabilité de faire tout ce qu'il pouvait pour protéger les citoyens de la violence par arme à feu. Les libéraux se sont engagés à en faire davantage pour le contrôle des armes au cours de la dernière campagne électorale, mais les groupes qui militent en faveur d'un meilleur contrôle accusent le gouvernement de se traîner les pieds depuis des années malgré les promesses. Par exemple, les survivants du massacre de l'école polytechnique de Montréal, qui avait fait 14 victimes en 89, toutes des femmes, déplorent le fait qu'elles doivent encore se battre pour réclamer un durcissement des lois qui encadrent la circulation et la possession des armes à feu.
Elle tue aussi beaucoup trop et partout. La vitesse sur les routes, elle est sanctionnée évidemment par des amendes ou par des points perdus sur le permis de conduire, en tout cas dans les pays qui appliquent ce principe. Aujourd'hui, en France, ceux qui roulent un peu trop vite écopent d'une amende et d'un point en moins sur leur permis. Mais voilà, le gouvernement pourrait changer d'avis et ne plus retirer de points pour ces dépassements de vitesse inférieurs à 5 km/h. Il représente aujourd'hui la moitié des infractions pour excès de vitesse en France. Ça pourrait donc changer prochainement, en tout cas pour le retrait de points, parce qu'il faudra tout de même payer l'amende, Sandrine Etoua-Andegue.
Il n'y aurait plus de points retirés sur votre permis de conduire en cas d'excès de vitesse 5 km au-dessus de la limite autorisée. Pour l'instant, il s'agit d'une réflexion, pas de calendrier ou d'expérimentation prévue à ce stade. Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour 40 millions d'automobilistes. Le mois dernier, l'association plaidait pour un allègement des sanctions pour ces micro-excès de vitesse qui, selon elle, représentent près de 60% des PV liés à la vitesse. C'est un très mauvais signal envoyé aux conducteurs, s'alarme Chantal Périchon, présidente de la Ligue contre la violence routière.
Il est évident que nous sommes avec une mesure pleinement électoraliste. Il ne s'agit pas de montrer un intérêt quelconque pour la sécurité routière. Il faut mettre un genou en terre devant le lobby de la vitesse, qui ne cesse de glapir que c'est une atteinte financière pour tous ceux qui ne respectent pas ou qui ont une minute d'inattention. Est-ce qu'il faut rappeler une énième fois que la vitesse est la première cause de mort sur la route?
Pour Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière, une telle mesure mettrait à mal le permis à points, un dispositif selon elle efficace et pédagogique.
Sandrine Etoa-Andegue pour France Inter, et c'est un dispositif, ce permis à points, qui devrait sans doute inspirer la Belgique. En tout cas, la Belgique n'a pas de permis à points à ce stade, mais on y pense un peu plus sérieusement aujourd'hui, Sarah.
Oui, le ministre de la Mobilité a annoncé cette semaine aux députés qu'il souhaitait qu'une proposition soit sur la table du gouvernement dans les 2 mois. Le ministre, je cite, souhaite prendre le meilleur de chaque système existant en Europe en matière de permis de conduire à points pour arriver à un système efficace et ciblé de lutte contre la récidive des comportements dangereux au volant.
Ils étaient portés disparus depuis près d'un mois et demi. Le 16 avril dernier, des pluies torrentielles ont provoqué l'inondation de la mine de zinc de Percoa au Burkina Faso et 8 mineurs n'avaient pas pu remonter. L'issue fatale a malheureusement été confirmée pour 4 d'entre eux. Nicolas, leurs corps ont été retrouvés dans une galerie par des secouristes.
Oui, si les sauveteurs n'avaient pu établir aucun contact avec les disparus depuis l'inondation, ils espéraient que les 8 mineurs avaient pu atteindre une chambre de refuge située à 580 mètres sous terre où de l'eau, de la nourriture et des médicaments sont habituellement stockés. C'est donc vers cet abri possible que tous les efforts s'étaient portés, les secouristes pompant l'eau sans relâche. Le 17 mai, cette chambre est atteinte, elle est vide. Une semaine plus tard, dans la nuit de mardi à mercredi, 4 corps sont découverts, les uns à côté des autres, allongés dans une galerie quelques mètres plus loin. Les cadavres ne sont pas encore identifiés, les recherches se poursuivent pour retrouver les 4 derniers mineurs, mais les familles n'ont désormais plus aucun espoir.
Et l'affaire a provoqué une intense émotion, on l'imagine, au Burkina Faso.
Oui, le pays tout entier a suivi les efforts des sauveteurs. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités et annoncer des mesures pour empêcher les responsables de cette mine exploitée par la compagnie canadienne Trevally Mining de quitter le territoire burkinabé. Les familles des mineurs, elles, ont porté plainte contre X pour tentative d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres.
Le Forum économique mondial de Davos, à présent, il a finalement eu lieu cette semaine en Suisse. Pas de neige, pas de participants russes, mais un forum marqué par la guerre en Ukraine et, pour la Suisse, Pierre-Han, par la question de sa neutralité.
Oui, car si vous me passez l'expression, la guerre en Ukraine fait bouger les lignes en Suisse. Neutralité ne veut pas dire indifférence, avait dit le président de la Confédération avant de se rallier aux sanctions de l'Union européenne. Invité en vidéoconférence, le président Zelensky s'est adressé aux entreprises pour les appeler à cesser toute relation avec la Russie, mais aussi aux États comme la Suisse, dans l'espoir qu'ils durcissent encore les sanctions.
Oui, et vous disiez que les lignes bougeaient en Suisse sur la neutralité.
Le Parti du Centre, par exemple, veut assouplir les règles pour livrer des munitions à l'Ukraine, un pas que le gouvernement n'est pas prêt à franchir puisque la neutralité exclut de fournir des armes à un seul des 2 belligérants. La ministre de la Défense Viola Amert l'a confirmé à Davos où elle a rencontré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, mais pas pour parler d'adhésion.
Non, ce n'était pas discuté. On a discuté comment on pourrait intensifier la collaboration. Je veux une collaboration plus étroite, mais toujours en respectant le principe, le droit de la neutralité.
Allez donc au-delà de l'actuel partenariat pour la paix, Jens Stoltenberg y est ouvert.
Nous pourrions collaborer davantage sur la technologie, la cybersécurité, les exercices avec nos pays partenaires. Il y a des possibilités d'étendre notre partenariat tout en respectant la neutralité suisse. Mais c'est à la Suisse de décider. Je l'ai dit à la ministre de la Défense lors de notre rencontre ici à Davos et oui, nous sommes ouverts à davantage de coopération.
Des exercices militaires conjoints iraient au-delà de l'engagement actuel des soldats suisses dans les forces de maintien de la paix dans les Balkans. Voilà qui promet des tensions politique à gauche, mais aussi avec les conservateurs de l'UDC, défenseurs d'une vision stricte de la neutralité.
On va se quitter cette semaine à Bruxelles avec les 20 ans de la loi qui dépénalise l'euthanasie, une loi votée le 28 mai 2002. Les conditions sont strictes, Sarah. Le patient doit souffrir d'un mal incurable et faire état de souffrances insupportables et inapaisables.
Et en 20 ans, 27 000 personnes ont rempli ces conditions et ont pu avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Alors il faut bien insister sur le fait que c'est un processus long et réfléchi. Lors de consultations de fin de vie, on expose aux patients toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux. Et il y a bien sûr plusieurs entretiens avant d'arriver à l'euthanasie. Depuis 2014, la loi a été étendue aux enfants et aux adolescents sans limite d'âge. C'était une première mondiale. Écoutez Florence Caïmax, elle est la vice-présidente du comité de bioéthique.
Il y a eu peu d'euthanasie de mineurs jusqu'à présent, mais il y en a eu. Il y a des circonstances de la vie qui font que des enfants qui ont traversé des épreuves incroyables liées à la maladie peuvent avoir une maturité qui est suffisante pour pouvoir imaginer leur propre fin.
Voilà la vice-présidente donc du comité de bioéthique. Aujourd'hui, Sarah, les associations de défense de l'euthanasie ont encore dans leur viseur la déclaration anticipée d'euthanasie.
Oui, alors contrairement à la demande actuelle où le patient est conscient et déjà dans un état incurable, la déclaration anticipée se fait avant, au cas où le patient se retrouverait inconscient et dans un état incurable à cause d'un accident, par exemple. Dans les faits, le champ d'application est très restreint. Pour des personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer, c'est plus compliqué. Jacqueline Hermans est la présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle demande plus de souplesse.
Par exemple, on pourrait définir que dès le moment où on ne reconnaîtrait plus les siens, où on serait plus capable de s'alimenter soi-même, que ce serait donc le point de non-retour par rapport à la personne et qu'il y aurait la possibilité à ce moment-là de pratiquer l'euthanasie.
Une souplesse qui est déjà d'application aux Pays-Bas.
Et puis en Suisse, Pierre-Anne, vous pratiquez ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est le patient qui doit absorber le produit létal, mais le corps médical veut en durcir les conditions.
Oui, la semaine dernière, la Fédération des médecins suisses a modifié ses directives pour la profession. Le médecin devra notamment mener 2 entretiens avec la personne qui souhaite mettre fin à ses jours et celle-ci devra prouver que sa souffrance est insupportable. Le médecin devra donc attester de la gravité de sa situation. Les organisations d'aide au suicide comme Exit jugent ces nouvelles directives inapplicables.
Pierre Anchoffa pour la Radio-Télévision Suisse qui va refermer cet accent des autres. Merci d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. Merci donc à tous et rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine.